Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est La Belle Histoire de France, cinquième chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre intitulé « La Troisième République s'installe ». Alors aujourd'hui, nous allons voir la chute d'Adolphe Thiers, son successeur Marc Mahon, nous allons voir les hussards noirs de la République et la mort de Victor Hugo. Bien sûr, nous parlerons évidemment de la Marseillaise, l'hymne qui s'installe à cette période de l'histoire de France. C'est parti. Bonjour mon cher Marc, bonjour Franck.
Christine.
Pourquoi ce visage ? La République, la Troisième République, ça vous...
Ah ben moi, vous pensez bien.
Je remarque qu'il y a... Bonjour mon cher Marc et bonjour Franck. Les choses sont dites.
Ah, ça y est, la monarchie est terminée. Au revoir mon cher Franck.
Mais voilà, alors on est quand même plus tendance Marc Menant. Bonjour mon cher Franck.
Bonjour cher
la
Christine.
La monarchie est terminée. Comment se porte Franck Ferrand ?
Alors, la monarchie est terminée, plus ou moins, parce que vous allez voir que les monarchistes n'ont pas encore tout à fait dit leur dernier mot.
Alors justement, dans cette émission, mais ça va être intéressant de voir comment on est quand même... La Troisième République s'installe, mais quand même, il y a des rôles. On va parler de tout ça. Franck, la semaine dernière déjà, nous avions évoqué le portrait d'Adolphe Thiers. La République sera conservatrice ou ne sera pas. Voilà, ça fait partie d'une des célèbres phrases.
Mais c'est fondamental, ça.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est peut-être la chose la plus importante de cette histoire récente. Je ne sais pas si on doit dire moderne ou contemporaine, parce que selon les auteurs, maintenant, vous savez, avant, on disait que l'histoire contemporaine commençait en 1870. Il y en a beaucoup maintenant qui la font commencer en 1914. Bon, bref. Oui. Toujours est-il que dans l'histoire récente, cette affaire de la République conservatrice, c'est le fondement de tout. Jusqu'ici, vous aviez, en gros, et pour simplifier un peu, je veux bien l'admettre, les gens de droite qui étaient monarchistes, qu'ils soient pour la monarchie de droit divin, légitimiste, oui, pour la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, on appelle ça les orléanistes, ou qu'ils soient pour la monarchie bonapartiste, bien entendu, des deux empereurs. Bon. Et puis les gens de gauche, ils étaient pour la République, c'était assez simple et assez clair. Avec la répression de la Commune, on a vu jusqu'où a été cette répression de la Commune, il y a une conversion de la République. La République devient conservatrice. Et à la tête de cette République conservatrice, vous avez ce petit bonhomme-là, toujours le même, Adolphe Thiers. Quand il dit « la République sera conservatrice », ce n'est pas seulement une phrase politique, ça veut dire que le pays en général, et notamment les campagnes, vont pouvoir se mettre à voter pour des élus républicains sans crainte de la révolution. Vous voyez, ça change tout, ça, évidemment. C'est absolument fondamental.
Il a prononcé cette phrase le 13 novembre 1872 devant des députés. Et c'est vrai, la question, c'est entre conservatisme et république.
Voilà, et ce 13 novembre 1872, il a dit autre chose. Il a dit exactement « la République existe, elle est le gouvernement légal du pays ». Ça, c'est une conversion. Vous allez me dire, on avait vu dès le mois d'août 1871, hein, c'était la loi Rivet, on avait vu le président de l'exécutif, donc Adolphe Thiers, appelé président de la République. C'était une indication sur la nature du régime quand même. Et on entendait Thiers, lorsqu'il recevait, à la préfecture, parce qu'on est toujours à Versailles, hein, très important de comprendre qu'à l'époque, le pays est gouverné depuis Versailles. La présidence de la République reviendra à Paris en 1873, et les deux assemblées, parce que le régime devient bicaméral, il ne reviendra à Paris qu'en 1879. Vous voyez, donc, pendant toute cette période, la France est gouvernée depuis Versailles de nouveau. Eh bien, lorsqu'il donne des dîners à Versailles, le président Thiers dit qu'il faut faire confiance à la République, il s'appuie sur les préfets républicains pour réorganiser le pays, il s'appuie sur la République pour libérer le territoire. N'oubliez pas qu'on doit 5 milliards de francs or aux Prussiens, qui sont devenus les Allemands maintenant, et qu'on leur a donné, si je puis dire, 1 600 000 citoyens, ceux de l'Alsace et de la moitié de la Lorraine. C'est une plaie à vif pour la France, bien entendu. Bref, la République est en train de devenir conservatrice. Le 13 novembre 72, Thiers l'a dit, mais il n'aurait pas dû le dire.
Ah, pourquoi ?
Eh bien, parce que, évidemment, lorsqu'il a dit que la République était le gouvernement légal du pays, il s'est mis à dos 60% des députés, qui, eux, étaient des monarchistes dans l'âme. Alors, il y a eu des élections partielles. Il y a notamment eu les élections partielles très importantes de juillet 71, on est juste après la Commune, où, pour remercier les Républicains d'avoir maté la Commune, les campagnes ont envoyé énormément de députés républicains à l'Assemblée. Et à chaque élection partielle, on se rend compte qu'il y a de plus en plus en plus de Républicains. Thiers n'est pas fou. Sauf que ceux qui ont été élus en 1871, là, les députés de l'Assemblée de février 71, ceux qui avaient été élus à Bordeaux, vous rappelez, pour ratifier la paix avec les Prussiens, ceux-là, ils n'ont aucune intention de se laisser voler le pouvoir. Eux, ils attendent le bon moment pour nommer un nouveau roi. Ils ne savent pas encore lequel ce sera, le comte de Chambord, le comte de Paris, on ne sait pas encore. Mais ils attendent le roi. L'espoir et d'entendre leur maître, d'entendre Thiers, le triomphateur, l'homme qui a maté la Commune, leur dire... La France est une république, ils ne sont pas d'accord. Et ça va amener à une crise terrible. Thiers est obligé de s'incliner, vous imaginez, il ne s'y attendait pas du tout. Il est viré du pouvoir et à la place, on va élire un président de la République monarchiste. Tout ce qu'il y a de plus monarchiste, ce sera Patrice de MacMahon.
Et on va voir qu'il est président de 1873 à 1879. Quel est cet homme ? Le 24 mai 1873, les députés à l'Assemblée décident de porter au pouvoir un royaliste, le maréchal de MacMahon.
Ah ça, s'il est royaliste, c'est même plus une évidence. Lui, il attend que le comte de Chambord accepte de venir prendre sa place en réalité.
Le comte de Chambord, vous vous rappelez, c'était l'enfant qu'avait eu la duchesse de Berry après l'assassinat de son mari en 1820. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, c'est donc le petit-fils du dernier roi, Charles X, du dernier roi de droit divin.
Ah ouais. Voilà, donc, et ce personnage, malheureusement pour tous ces royalistes en attente, ils sont là, c'est tout juste s'ils n'ont pas déjà déployé le grand tapis rouge jusqu'à la frontière pour qu'ils puissent traverser la France sous les ovations. Cet homme a une lubie. Il dit « Je veux le drapeau blanc. Je ne serai pas là. »
Ce n'est pas une lubie du tout. Mais enfin, non, en tout cas, c'est un principe, disons.
Voilà, oui, mais enfin, principe. Bon, ça surprend quand même son camp. C'est-à-dire qu'il y a une obsession qui relève de l'intime conviction, mais que ses partisans ont du mal à comprendre. Bref, à un moment, MacMahon est celui qui s'installe, et là, il dit « l'ordre moral ». Alors, c'est la deuxième conséquence. Non seulement il est monarchiste, mais comme tout monarchiste, il est extrêmement dévot. C'est un homme de la religion. Et d'ailleurs, dans toute la France, on va avoir des manifestations, des processions, et... pour montrer que l'engouement vis-à-vis des instances suprêmes, il est là et que la France ne peut se séparer du Tout-Puissant, du Seigneur, de Dieu. Et ça le guide, notre MacMahon. D'où vient-il ? Il vient d'une famille de grands militaires, c'est toute une lignée. De MacMahon, forcément, il est de l'aristocratie. Il se mariera avec une femme qui n'a rien à lui envier sur le domaine... je dirais de
la naissance.
Et notre MacMahon, très rapidement, il veut faire comme dans sa famille, c'est-à-dire être militaire. Ah, il rêve d'exploit. Ce gaillard-là, il est vrai qu'il faut lui reconnaître un tempérament invraisemblable. Bon, alors, il a le sens de l'ordre, ça aide quand on est militaire, mais surtout, il a un côté Murat, c'est-à-dire que rien ne peut l'arrêter, et c'est ce qui transcendra les hommes derrière lui. Il termine troisième du concours de Saint-Cyr, donc il sort en très 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 bon rang. Et en 1827, on commence à penser à la conquête de l'Algérie, il y a des prémices. Et puis après, Charles X, poussé par Polignac, là encore, un homme en ferveur totale qui tutoie la Sainte Vierge au quotidien, ne prend pas une décision sans en appeler à Marie. Et... apparemment, elle lui conseille d'envahir l'Algérie. Notons que ce n'est pas spécialement une opération de colonisation. À Alger, vous avez les barbaresques. Et les barbaresques sont là, les corsaires. Et depuis des années, ils règnent.
Des siècles.
Voilà, ils règnent sur la Méditerranée. Et ces barbaresques, ce sont les Turcs, ce sont les Ottomans. Donc ne croyez pas que nous sommes les salopards qui allons envahir la terre d'Algérie. Ce n'est pas véritablement un pays. Vous avez Alger et puis après l'ensemble du territoire qui... séparatistes, avec des tribus qui règnent ici et là.
Je sens que vous allez vous faire des amis, Marc.
Mais non, mais j'essaie d'être dans la réalité. Il est appelé, ben, dans la première opération, la conquête d'Alger. Il se distingue, il est sous-lieutenant, c'est-à-dire que c'est le plus bas grade d'officier. Et là, il part avec ses gars. C'est une sorte de Bonaparte. C'est invraisemblable. Il est tellement brillant, tellement farouche, qu'il obtient déjà la Légion d'honneur. Et ça, c'est un trajet de militaire qui ne va cesser de le distinguer dans toutes les guerres, et elles seront nombreuses, auxquelles il participera. Il aura de longs séjours en Algérie. Il affrontera Abdelkader directement. Il triomphera d'Abdelkader. C'est ce personnage qui est loué et qui, au fur et à mesure, forcément, monte dans les grades. Et puis, l'Empire a été à nouveau imposé par Napoléon III. Napoléon III décide de se battre contre les Grusses. C'est la guerre de Crimée. Et alors, il y a encore dans la région parisienne aujourd'hui une ville qui nous rappelle cet événement, c'est Malakoff. Malakoff, le fort de Malakoff. On est là à côté de Sébastopol. Et lui, il est à la tête des Zouaves. Il faut savoir que les Zouaves, c'est un peu comme la Légion étrangère. Ce sont les têtes brûlées. Ceux qui n'obéissent pas facilement. Mais en revanche, quand ils sentent qu'il faut être sous le commandement du supérieur, parce que nous sommes à la guerre, là on ne discute pas. On est capable de tout, on laisse sa vie, quitte à perdre la moitié, voire les trois quarts du régiment, jusqu'au dernier instant, on lutte, on lutte, on lutte. Il faut aller la prendre, cette bastide de Malakoff. Et il est là, allez les gars, on y va, ils tombent les uns derrière les autres, et puis à un moment donné, ils plantent l'épée, le drapeau, enfin, elle est à eux, la bastide, le fort. Et MacMahon, qui est tout fier, et un jeune officier anglais qui jaillit, qui le dit, vous ne pouvez pas rester là, c'est miné, ça va exploser. Alors là, il y aurait cette tirade, j'y suis, j'y reste. En réalité, dans ses propres mémoires, il nuance le propos. Il dit,
il nuance, mais c'est ce qui reste de lui.
C'est ce qui reste
même
de lui.
Même les gens qui ne connaissent pas MacMahon, ils connaissent ça. J'y suis, j'y reste.
Et c'est même le 3e régiment de Zouaves, tant qu'il existera, on fera sa devise. Et les Zouaves, jusqu'au bout, seront les régiments de l'élite et des tentatives invraisemblables. Alors, retenons cet exploit-là. Mais après, avec Napoléon III, il se retrouve également à la bataille de Magenta. Là encore, tout semble perdu, et grâce à MacMahon, à cette hargne. Et comme il est exemplaire vis-à-vis de ses hommes, et qu'en plus ce sont ses troupes qui, viscéralement, sont les troupes de l'acharnement, eh bien, il fait basculer et il emporte la victoire. Cet homme est distingué, il en finit maréchal, le bâton exceptionnel.
Et duc de Magenta.
Et duc de Magenta. Alors, vous pensez bien, quand on est noble, que l'on a eu cette période où l'aristocratie était chancelante et que l'on est nommé duc. Quelle restauration, quelle splendeur! En dehors de cela, c'est un homme de prière. Il n'est pas question d'aborder la journée sans s'en remettre, là encore, un petit clin d'œil vis-à-vis de Dieu. Il faut se sentir en protection.
Donc il a tout pour lui, en fait.
Tout pour lui.
Alors, guerrier, combattif,
voilà.
Royaliste,
alors,
dévot.
Première anicroche, si je puis dire, c'est Sedan. Il est à côté de Napoléon III. Cette armée, on vous l'a décrite la semaine dernière, toute dépenaillée, pas préparée. Et il a beau être... D'ailleurs, il a déjà un certain âge, il a plus de 62 ans. Bon, il semblerait qu'il garde un minimum de tempérament, mais il a beau faire, il est blessé, il est évacué du champ. C'est sa première grande défaite. Où il pense prendre sa revanche, c'est vis-à-vis de la Commune. Ces pouilleux qui osaient se dresser contre la République, enfin qui n'est pas encore véritablement
contre l'État,
la République, contre l'État. Et là, eh bien, Thiers lui demande d'être celui qui mène la répression à Paris. Et on vous l'a conté la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on se comporte en véritable barbare. On ne tient pas compte de la situation des uns et des autres. Vous pouvez être un petit gamin, vous pouvez être une femme enceinte. Ce qui importe, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Et l'ordre moral, c'est ce qu'il proclame donc quand il devient le président. On a le sentiment que pour lui, l'essentiel, effectivement, c'est de pouvoir restaurer cette splendeur, redonner confiance à tous les financiers, ces financiers qui avaient été si bien servis par Napoléon III. Donc il faut la stabilité. Et surtout, je vous l'ai dit, c'est à nouveau de sentir que la France est placée sous le signe de Dieu. Donc on fait en sorte que la religion resplendissent. Et là, avec les autorités de l'Église, on aura la reconnaissance du mythe de l'Immaculée Conception, le Marie qui est placé, je dirais, comme étant l'emblème d'une religion miraculeuse. C'est là que les apparitions se multiplient. Et voilà quel est notre personnage, Mac Mahon. Lorsqu'il est obligé de se retirer du pouvoir, il rédige ses mémoires. Mais il est dans la splendeur, hôtel particulier, son épouse à ses côtés, les médailles qui lui rappellent la grande époque. On vient forcément s'affaisser devant lui, sauf les républicains qui ont une véritable haine contre lui, en particulier, bien évidemment, Gambetta. Gambetta, c'est l'homme qui dit que...
C'est l'opposant absolu, là.
Voilà, c'est là où il est bon de revenir sur ce que disait Franck tout à l'heure, c'est-à-dire que on a deux sortes de républicains. Les républicains qui étaient dans la sensibilité de Thiers, donc un régime
conservateur.
Conservateur. Et puis à côté,
les radicaux
qui sont les républicains tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui. Les
républicains de gauche.
Voilà. Et ceux qui pensent que le peuple a le droit de citer, que le peuple doit avoir un espoir, que le peuple doit connaître des améliorations au quotidien. Et ce sont eux qui fouraillent contre l'ordre de Mac Mahon et qui ont fini par obtenir sa déchéance. Notons aussi que lorsqu'il est au pouvoir, à un moment donné, une décision est prise. C'est à vous de l'évoquer, peut-être, c'est quand Wallon, le député Wallon...
Député Wallon, oui.
Wallon décide...
Ah ben on va en parler, oui, bien
voilà,
sûr. Oui.
De proposer le président de la République. Allez, avec 7 ans au pouvoir.
Il y a une chose concernant Mac Mahon, c'est évidemment la vulgate républicaine qui a développé un peu cette mythologie, mais on disait qu'il avait quand même le don des formules et des déclarations un peu stupides.
Alors il y a celle, la crue.
Alors c'est
extraordinaire. En Gironde, alors on apprend qu'il y a des crues désastreuses en Gironde. Alors on lui dit, Monsieur le Président, il faut vous rendre sur place. Il faut dire qu'il s'est placé un peu en dehors de l'action directe politique. Il accepte de tenir une sorte de rôle de père de la patrie. Alors il se précipite sur place. Et effectivement, la situation est désastreuse. Les campagnes sont submergées. Il regarde ça d'un monticule. Il a le préfet à ses côtés. Il balbutie. On attend qu'il ait une...
Les journalistes sont là parce que c'est l'école de la presse, donc on veut savoir ce que le président va dire.
Que va dire le président? Et à ce moment-là, on l'entend qui dit « Que d'eau ».
Non.
« Que d'eau ». Et il y a le préfet qui dit « Monsieur le Président, vous ne voyez que le dessus. »
Ça, c'était pour Mac Mahon. Bon, en tout cas, l'arrivée de ce président marque l'affirmation de la République. On en parle. N'empêche, messieurs, quand on vous écoute, qu'on ne sait pas où on en est.
Mais non.
Sous quel régime? Non, mais c'est vrai.
Alors, ils ne le savent pas eux-mêmes.
Non, mais c'est vrai. République ou monarchie, par quel moyen cette république s'est-elle affirmée, finalement?
Bah, c'est une monarchie républicaine ou une république monarchique. On n'en sait pas grand-chose, exactement. Vous avez bien compris, quand même, que Thiers a été le premier à porter le titre de président de la République. Et puis, alors, Mac Mahon, lui, est très fier de ce titre. Ça, c'est d'ailleurs, pour un monarchiste, c'est inouï, mais il fait respecter partout le titre de présidence de la République. C'est d'ailleurs avec Mac Mahon que va naître, si l'on peut dire, un peu le décorum et la mythologie présidentielle. C'est là qu'on va voir se formaliser les uniformes de la garde républicaine et tout ça, parce que qui n'ont pas changé jusqu'à nos jours.
Hein, c'est l'inspiration monarchiste, voilà. On sent son âme qui poindre dans les décisions qu'il prend.
C'est lui aussi qui installe la présidence au palais de l'Élysée. C'est-à-dire que lui, il en a assez de Versailles. C'est surtout sa femme qui veut se rapprocher des théâtres. Et donc, on s'installe à l'Élysée. Mais les députés et les sénateurs, eux, vont être beaucoup plus lents à le suivre. Puisque eux, le couple Mac Mahon s'installe à l'Élysée en 73. Et il va falloir encore 6 années pour que les parlementaires veuille bien revenir à Paris. Bon, à partir de 79, tout le monde sera à Paris, et là, ça y est, de nouveau.
On peut peut-être rappeler que l'Élysée avait été construit par le comte de Verneuil, et que
le comte d'Evreux,
et c'est Caroline Bonaparte qui l'a fait restaurer selon son goût. Et ensuite, mais il est bien de rappeler que Caroline Bonaparte est celle qui a donné l'apparence de l'Élysée d'aujourd'hui.
Et puis ça avait été la maison de Madame de Pompadour avant cela.
Oui, bien entendu.
Et puis on avait réaménagé l'Élysée pour y installer Napoléon III, enfin le prince président Louis Napoléon, avant que devenu empereur, il ne réemménage aux Tuileries, bien entendu. Bref. On va clore le chapitre de l'Élysée, mais pas tout à fait celui de MacMahon, parce que on est dans une époque où on sait à peu près qu'on est dans une république, mais vous avez compris que c'est une république conservatrice et monarchiste, hein, donc c'est un peu particulier. Et surtout, on se dit combien de temps on va l'avoir MacMahon. Il faut que l'Assemblée décide, vote une loi sur la durée du mandat présidentiel. Alors tout le monde dit 5 ans, d'autres disent non, il faut une décennie. Finalement, on va se mettre d'accord sur 7 ans. C'est ce qu'on va appeler un septennat. Et on va dire pourquoi 7 ans ? Parce que c'est suffisamment long pour que le comte de Chambord se décide enfin à devenir le roi de France. Et d'ailleurs, on avait une expression, les députés disaient on va voter pour 7 ans, le temps que Dieu ouvre les yeux du comte de Chambord ou les lui ferme à jamais.
Finalement, vous avez compris la conclusion.
Et finalement, c'est au cours d'une nuit. On est toujours dans l'Opéra Royal de Versailles, hein, qui sert donc de siège à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, non, pour être très exact, je suis en train de me dire, en 75, l'Assemblée siège déjà dans le grand hémicycle d'Edmond Joly, dans l'autre aile du château de Versailles. C'est le Sénat qui est à l'Opéra Royal. Peu importe, on est en tout cas au château de Versailles. Il fait nuit, il n'y a plus beaucoup de députés dans l'hémicycle, et on dépose des amendements, vous savez. Bon, ça n'a pas changé. Et donc, il y a cette loi sur le mandat, et il y a un député qui s'appelle Vallon, justement, et ce député Vallon, il va déposer un amendement en disant « Le mandat du président de la République est fixé à 7 ans ». Il a ajouté le mot « de la République ». Eh bien, ça y est, c'est la reconnaissance du régime présidentiel qui a été voté donc de nuit à Versailles à combien de majorité ? Une voix. Voilà comment la République a été décrétée en France. Une voix de majorité. On était le 30 janvier 1875.
Rééligible, hein ?
Oui. MacMahon, donc, pense qu'il est là pour très longtemps, il est en pleine forme, ce que nous a raconté Marc. Eh oui, mais sauf que plus le temps passe avec les élections partielles et plus on voit des députés républicains entrer dans les parlements. Et ce qui est plus embêtant, même encore pour le régime, c'est que parmi ces républicains, il y a de plus en plus de radicaux, donc de ces vrais républicains de gauche, si on peut dire. Alors, je ne sais pas que les autres ne soient
Gambetta,
pas républicains.
L'ennemi, c'est la religion.
C'est ça. Et alors, Marc vient de mettre le doigt sur le vrai problème, parce que le problème, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème religieux. Il y a au pouvoir des conservateurs qui sont catholiques, et il y a de plus en plus présents à l'Assemblée des députés républicains qui sont anticléricaux. Pourquoi ? Parce que la plupart sont les délégués des comités, alors je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais ces comités sont les émanations directes des loges maçonniques. C'est le début de la République maçonnique.
C'est très intéressant de savoir pourquoi justement il y a cet anticléricalisme.
Eh bien c'est
anticléricalisme à ce moment-là.
Pour une raison là qui est...
Parce qu'on n'est pas sous Henri IV avec le protestantisme.
C'est contre la religion catholique.
Contre la religion catholique.
À l'époque, il y a quasiment que... Voilà. Enfin, il y a surtout la religion catholique. Il y a deux autres religions, mais aussi bien la religion juive que la religion protestante ne sont pas très répandues à l'époque.
Donc les loges maçonniques avaient un véritable pouvoir.
Ah, mais un pouvoir immense. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir, dans le cours des années 1870 et ensuite 80, on va voir le nombre de députés pleinement républicains, on va les appeler radicaux notamment, enfin en grande majorité radicaux, s'installer au pouvoir. Or, la quasi-totalité, attention, je dis bien la quasi-totalité d'entre eux, sont des francs-maçons, j'allais dire militants, très actifs et donc très anticléricaux, parce qu'ils émanent d'un certain nombre de loges anticléricales. Et c'est de là que va naître ce grand anticléricalisme de la République. Et vous voyez bien que c'est une guerre quasiment de religion au sommet de l'État.
Il faut quand même préciser
que... Je sais que vous avez quelque chose à dire.
Ben oui, non, parce que le cléricalisme, il est partout. Dans les hôpitaux, vous avez les hôpitaux publics.
Non, mais c'est la France, hein.
Non, mais vous avez le crucifix. Ce sont les bonnes sœurs qui sont les infirmières. L'école est catholique, elle est tenue
et depuis
Charles X. Depuis Charles X, à nouveau, on a vu avant tout les curés être les maîtres non seulement de l'enseignement, mais des maîtres des consciences.
Vous êtes en train de m'expliquer que depuis cette époque-là, il y a tout à déconstruire.
Ce n'est pas déconstruire, c'est revenir à ce qui est la césure, la révolution de 1789. Ça n'est pas comme ça le matin. C'est que on avait lutté contre la monarchie, mais la monarchie elle est consubstantielle avec la religion.
On est à combien de temps ? 20 ans, 30 ans avant la loi de 1905.
Exactement.
On est 30 ans avant.
Mais pour bien comprendre aujourd'hui.
Une génération avant.
Bien comprendre ce qu'est la laïcité, c'est ça qu'il faut retenir.
C'est ça.
C'est comment, quand aujourd'hui on dit chacun croit ce qu'il veut, s'il veut mettre des habits, il est musulman, la femme elle se voile. Non, c'est contre tout ça, c'est 25 ans d'une lutte enragée afin de dépouiller la France de toute cette
imprégnation religieuse.
Imprégnation religieuse, voilà. C'est comment on peut vivre selon sa foi, mais ne plus afficher sa foi.
C'est-à-dire que pour être clair, la foi devient une affaire privée. Voilà. Alors que depuis des siècles, pour ne pas dire millénaires, dans un pays comme la France, vous imaginez que la foi était tout sauf une affaire privée. C'est une affaire, au contraire, très publique. Et donc, c'est un arrachement très fort. Et pour et énormément de familles françaises, c'est très
France,
violent,
d'ailleurs.
C'est très dur.
Et identitaire de la République.
Oui. Identitaire c'est de ça. La République
d'ailleurs,
de la France.
D'ailleurs, là, on n'a pas trop le temps, mais il faudrait voir comment réagit le Vatican. Inutile de vous dire qu'à Rome, on n'est pas content du tout de ce qui est en train de se passer. Hein. Tout ça est assez violent quand même. Et puis, n'oubliez pas plusieurs aspects. Cet endettement lié aux 5 milliards des Prussiens, l'assise de plus en plus grande de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour favoriser fiscalement, socialement, dans tous les domaines pour favoriser cette bourgeoisie possédante. Ce sont les classes possédantes qui s'installent au pouvoir pendant cette fin des années, cette fin des années 1870. Et il faut donc que je cite, c'est là que je voulais en venir, crise, la fameuse crise du ce qu'on appelle la crise du 16 mai 1877, où MacMahon a cru pouvoir s'opposer à la nouvelle majorité républicaine. Il était sûr de pouvoir maintenir le conservatisme au pouvoir. Et voilà que MacMahon est éjecté littéralement. Et il va devoir s'incliner. Lui aussi, décidément, les deux premiers présidents de la République vont avoir du mal quand même.
Très intéressant.
Mais c'est très important parce que cette crise veut dire que désormais, c'est véritablement la République qui s'est installée et que c'est une République authentique.
Alors, messieurs, passionnant. On est en train de déborder. Passionnant. Pourquoi ? Parce qu'on parle... Non, mais on parle de la naissance de la laïcité. On parle de la naissance de la République. Mais on va continuer à en parler. On va marquer une pause. On va continuer à en parler. La naissance de la Marseillaise. Très intéressant. On en parle. On marque une pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menon. Nous sommes dans le chapitre 50. La Troisième République s'installe. On a vu à quel point c'était mouvementé, cette première partie, puisqu'on a vu effectivement comment les prémices de la République.
Vous avez bien compris.
Vous n'avez pas recommencé, parce que.
Non,
on a fini la première partie.
La Première République, vous vous rappelez, c'est 1792, c'est celle de la Révolution française, jusqu'à ce que Napoléon lui fasse un sort.
Oui.
La Deuxième République, c'était celle de 1848, qui n'a pas duré très longtemps, puisque le nouveau président de la République l'a transformée en Second Empire. Et donc là, on est à la Troisième. Il y aura, après la Seconde Guerre mondiale, il y aura une Quatrième République. Et puis, nous sommes, nous, dans la Cinquième. La Troisième République, elle a duré 70 ans, c'est pas rien.
Ah oui,
et n'oublions pas qu'on est au début avec le grouillement du peuple. Le peuple qui est dans l'exploitation la plus sordide. Les enfants qui travaillent dès l'âge de 4 ans, 5 ans, 14 heures par semaine, il n'y a qu'un seul jour de repos le dimanche et c'est tout.
Vous l'aviez déjà dit là.
Oui, non, mais il est bon de le rappeler parce que là aujourd'hui.
Mais la prochaine fois, il faut venir carrément avec des panneaux syndicaux. Là,
Oui, en fait, c'est un peu ça. Il faut attendre 1936. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore.
On fera trois émissions.
Donc je disais que dans la première partie, l'installation de la Troisième République et la partie laïque, l'installation de la laïcité, ce que ça voulait dire. Donc c'était très intéressant.
Alors c'est
et
pas encore cette... installé la laïcité, ça.
Non, mais les prémices, les prémices. Donc alors dans cette deuxième partie, on va parler de la Marseillaise tout de suite. On parlera aussi du rôle que joué par les hussards noirs de la République. On parlera de la disparition de Victor Hugo également dans cette deuxième partie. Pour commencer cette deuxième partie, une question, messieurs, Marseillaise ou 14 juillet, comment s'imposent les grands symboles ?
Alors, la Marseillaise, On peut se rappeler déjà qu'elle naît à Strasbourg avec un petit capitaine du génie, Rouget de Lille. Il y a de Destrich, le baron de Destrich, qui est le maire de Strasbourg. On vient de déclarer... Enfin, c'est...
Ah, mais on va pas raconter l'histoire de la Marseillaise.
Non, mais c'est simplement, la guerre vient d'être déclarée et il y a de Destrich qui dit il faut un champ de guerre pour motiver...
Pour l'armée du Rhin.
L'armée du Rhin, et c'est comme ça que naît en pleine nuit, dans une sorte de transe créatrice.
Et pourquoi la Marseillaise ? Parce que c'était des bataillons qui arrivaient de Marseille.
Qui l'ont repris. Ça a tellement touché les âmes et galvanisé les gens que ça va jusqu'à Marseille. Et les Marseillais, seuls la tribu, ils montent à Paris, les volontaires, en la chantant. Et au fur et à mesure, le peuple adhère à leur cœur.
Cette Marseillaise, elle est devenue un symbole extrêmement fort d'opposition au pouvoir de la part des Républicains, qui pendant longtemps étaient strictement interdits pour chasser, bien entendu. Quand on entendait dans les grands banquets républicains de l'époque de la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, quand tous ces gens se levaient et se mettaient à chanter la Marseillaise, à chaque fois, le pouvoir avait quelques frissons, vous voyez. Et donc, que ça devienne finalement l'hymne national, ça en dit quand même long sur toute cette évolution. On peut dire que les institutions, les idées, tout se déplace peu à peu vers la gauche. Pour ce qui est, vous parliez du 14 juillet. Oui. Alors le 14 juillet, on cherche un jour de fête nationale. D'habitude, c'était le jour de la fête ou de la naissance du souverain. Mais il n'y a plus de souverain. Bon, donc qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? On se dit, le grand jour, c'est le 14 juillet. Tout le monde pense évidemment à la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Eh oui, mais n'oubliez pas que nous sommes dans cette République conservatrice qui a maté la Commune, qui veut instaurer une bourgeoisie stable et tranquille et qui veut rallier à sa cause toutes les campagnes conservatrices. Et donc, elle va décider, c'est un tour de passe-passe, mais on va dire officiellement qu'on ne célèbre pas le 14 juillet 1789, mais le 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération, qui était la conciliation de tous les Français.
Voilà, c'est soudain la pacification. Car n'oublions pas, là aussi, souvent, on a la mémoire qui défaille, on a l'impression que 1789, ça y est, le roi est tombé, il a même perdu la tête. Non, tout ça, c'est très long, il ne perd la tête qu'en 1793. Et en 91, on a presque 90. On a presque l'impression que la royauté allait sauver. Tout est encore possible.
Et Victor Hugo va dire, pardon Christine, juste, à l'Assemblée, la veille du vote, la loi a été votée le 6 juillet 1880. C'est-à-dire que la première fête nationale, 14 juillet en France, c'est le 14 juillet 1880, avec la grande revue militaire de Longchamp. Pourquoi grande revue militaire ? N'oubliez pas que nous sommes dans un régime qui devient complètement militariste, avec une obsession, 5 ans le service militaire à l'époque. Alors vous aviez la possibilité, comme il y avait des tirages au sort qui étaient complètement truqués, vous pouviez faire votre service militaire par quelqu'un d'autre. Et en fait, la bourgeoisie ne fait pas le...
sous Napoléon. Hein.
Oui, la bourgeoisie ne fait pas le service militaire. Mais pour le peuple, c'est 5 ans de service militaire.
Ça n'existait pas avant. Et donc, c'est la première fois qu'on a une mobilisation de 5 ans pour le piou-piou.
Le but, c'est d'aller prendre sa revanche contre les Prussiens, bien entendu, et de leur reprendre l'Alsace et la Lorraine, bien entendu. Et donc, le 5 juillet, la veille du vote de la loi, en 1880, Victor Hugo, qui est devenu un vieux monsieur avec cette grande barbe blanche, c'est un peu le roi républicain, c'est le père de la République, si vous voulez. C'est, comme il n'y a plus de figure à laquelle se référer, on se réfère au plus célèbre des Français, c'est-à-dire à Victor Hugo qui dit... La chute de la Bastille, messieurs, parce qu'à l'époque, il n'y a que des élus hommes, c'est la chute de toutes les Bastilles. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages et sera la fête de toutes les nations. C'était cette espèce de république universelle à laquelle aspire le génie hugolien.
Très intéressant, cette Troisième République et toutes les valeurs qui sont en train d'émerger et d'exister. Les valeurs de l'école, l'école de Jules Ferry. C'est à Charles Péguy que l'on doit l'expression « les hussards noirs de la République » qui était le nom donné aux instituteurs sous la Troisième République. L'homme de la situation a été un grand ministre, Jules Ferry.
Eh oui, Jules Ferry, on va en dire un mot. On parlait ensemble, Christine, avant l'émission de cette expression « les hussards noirs ». Alors, oui. Je vous ai retrouvé le texte de Charles Péguy qui dit « nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs ». Voilà d'où vient l'expression. Svelte, sévère, sanglé, sérieux et un peu tremblant de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, mais je pense avec un liseré violet. Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, c'est aussi la couleur de l'enseignement primaire.
Il faut lire Peggy, parce que l'auteur tombé en désuétude, mais il a cette allégresse de plume qui mérite...
Et surtout, il a ces fulgurances qui permettent d'évoquer peut-être toutes les grandes notions républicaines de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Alors, en deux mots, justement, donc, Charles Peggy, l'école, à ce moment-là, un point très très fort. Ça marque la Troisième République.
Oui, c'est-à-dire que... Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, ça va pas faire plaisir à Marc, mais c'est comme
attention,
ça.
Je veux
qu'on... Il y a une chose qu'il faut dire qui est très importante, parce que là, on raconte n'importe quoi depuis tant et tant d'années. L'école n'est pas née avec la République. Non. Il existait des écoles dès le Moyen-Âge. Il y avait des petites écoles dans les villages, les quartiers des villes, partout. Sous Louis XIV, on allait à l'école. En tout cas, les petits garçons, les petites filles, quand elles pouvaient, pas toujours.
La semaine dernière, vous m'avez raconté sous la Commune qu'il y avait beaucoup d'analphabètes. Et tout.
Parce que c'est très théorique. Voilà, il n'y avait pas d'obligation. Ça dépendait des lieux, ça dépendait de la volonté des prêtres qui faisaient l'école aussi.
Et puis, les parents, c'est un monde d'agriculteurs. On a besoin des gamins. Au cul des vaches pour faire gratter la terre, etc.
En 1833, Guizot, le fameux Guizot, l'historien, le président du conseil de Louis-Philippe, à l'époque, il était ministre de l'instruction publique, avait donc créé les écoles de garçons. Ensuite, on a vu Victor Duruy, vous rappelez, oui. Qui a tout fait pour rendre l'école obligatoire pour les petites filles. Il y a eu la toute première bachelière, d'ailleurs, en 1861, sous le Second Empire, Julie-Victoire d'Aubier, etc., etc. Je dis ça pour pas qu'on croie que l'école soit née avec la République. Mais c'est vrai que on va voir, et ça c'est assez extraordinaire, à partir de la fin des années 1870, quand la République s'impose et s'installe, après la crise qui a chassé MacMahon, là. À partir de là, on va voir l'école devenir en quelque sorte l'obsession du régime. Pourquoi ? Parce que ce régime a compris, entre parenthèses, on ferait pas mal de s'en inspirer, nous sans doute, il a compris que tout passe par l'école. Tout est une question d'éducation. On apprend aux enfants... D'abord les savoirs fondamentaux, et puis surtout on leur apprend à devenir patriotes. Pourquoi pas un jour à donner leur vie pour la patrie ? C'est ce qui va se passer avec la Première Guerre mondiale, dont on se rapproche quand même dangereusement, je vous ferai remarquer. Et donc cette école, celui qui va la rendre gratuite, laïque, bien sûr, et obligatoire, elle l'était déjà en grande partie, c'est ce fameux Jules Ferry. Alors, il y a plusieurs grandes lois. Alors, on pourrait parler un peu du... Vous voyez qui est Jules Ferry avec...
On le voit ici à l'image. Pendant
ah bon, là, voilà. J'allais dire avec ses favoris, mais en même temps, on l'a...
Nous travaillons en phase. Hein,
très important.
Ça suit en régie.
C'est un grand bourgeois, hein, Jules Ferry, qui a fait une fortune. Alors là, ça nous entraînerait dans des considérations qui sont un peu tendancieuses. Peu importe. En tout cas, il fait partie de ces républicains conservateurs. Hein, pour le coup, ce n'est pas du tout un radical, lui. C'est un homme qui, d'ailleurs, va jouer un rôle très important dans le développement colonial de la France. Vous savez, on l'a appelé...
L'un des instigateurs, si ce n'est l'instigateur.
On l'a appelé à la mauvaise époque du gouvernement provisoire, on l'appelait Ferry Famine. Un jour, on l'appellera Ferry Tonquin, puisque bon, voilà. En attendant, c'est M. Jules Ferry, le père de cette école. Alors, les grandes lois, c'est 16 juin 1881 sur la gratuité, ce qui veut dire qu'on ne peut plus s'excuser sur un manque de ressources pour ne pas envoyer les enfants à l'école. On fait les travaux le matin, mais on les fait avant de partir à l'école. Vous savez, les enfants, ils préparent le bois. À l'époque, c'est un peu le personnel de maison aussi, hein, les enfants. Mais une fois qu'on a fini sa journée du matin, si je puis dire, à 9h, on s'en va à l'école pour faire la journée.
Donc on marche 5 ou 10 kilomètres quand on est dans les campagnes.
Ça peut arriver, en effet. Et puis le 28 mars 1882, l'école obligatoire et laïcité absolument fondamentale. Il y a un autre texte. Je viens de vous lire un petit texte sur les
sermoirs. Pendant que Marc se prépare pour Victor Hugo,
oui. Voilà.
Parce qu'il va mourir dans un instant.
Il y a un texte qui est la lettre aux instituteurs envoyée par Jean Jaurès, vous savez, qui dit, alors là on est un peu plus tard, hein, le 15 janvier 1888, Jaurès dira « Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne, au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français, ils doivent connaître la France, sa géographie, son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens. » Et il y a un livre lequel on apprend à lire. Il y a deux livres.
Ça n'existe plus, ça, du tout.
Ouais, mais voilà, on apprenait à être citoyen.
C'est-à-dire
que c'est important. on a fait en sorte que chacun puisse croire, et c'est intime conviction, mais on est d'abord français, on est fier d'être français, on s'accapare la langue, on doit la goûter comme un bonbon.
Il y a une volonté, vous avez bien compris, de fabriquer une nation armée de citoyens
patriotes,
républicains et patriotes. C'est important de dire républicains et patriotes.
Qu'est-ce que vous entendez par
républicains?
C'est-à-dire
qu'on ne veut plus d'enfants qui soient favorables au roi ou aux empereurs. On veut des enfants qui chantent la Marseillaise et qui aiment la République. Et on va les fabriquer comme tels. C'est
aujourd'hui quand on dit républicain, c'est pas du tout effectivement.
Et c'est pour ça que vous avez des cours de civisme à l'école. C'est la morale. Puisqu'il n'y a plus la morale religieuse, il faut montrer que la République en elle-même est porteuse du respect de son camarade et du respect commun.
Alors, messieurs,
je vais finir juste petite affaire sur l'école. Cette école, tous les enfants ont soit dans leur casier, soit dans leur cartable à l'époque deux livres. Il y a le bled, ce qu'on appelle le bled, hein, qui sur l'orthographe, la grammaire. Et puis, bien sûr, le tour de la France par deux enfants, qui est signé G. Bruno, mais qui est en fait le pseudonyme d'une femme auteure qui s'appelle Madame Feuillet. Et ça va être la Bible, en quelque sorte, de tous ces petits-enfants. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de deux petits Lorrains qui doivent quitter leur Lorraine occupée. Ce sont deux frères. Ils vont faire tout le tour de la France en allant visiter les ateliers, les usines, les vignobles, les grandes productions agricoles. Et on montre une France au travail, une France laborieuse qui devient riche, qui devient travailleuse, qui devient vertueuse. Enfin, vous voyez. Et on enfonce ça dans le crâne de tous les enfants. Et en même temps, on construit partout des écoles. Alors, la muse de l'histoire, c'est Jean Sicard qui dit ça, vit surgir d'un coup par milliers, tout blanc sur le vieux territoire, des palais pour les écoliers.
Souffle d'enthousiasme.
C'était ça, l'éducation à l'école. Ça a bien changé. Maintenant, on va parler de Victor Hugo. Parce qu'à cette époque, Victor Hugo commençait à se faire vieux.
Vous êtes en train de nous dire, Christine,
oui,
que bientôt, Marc ne va plus nous parler de Victor Hugo.
Oui, parce que
ça fait quand même 7 ou 8 émissions.
Chose vue de Victor Hugo.
Je trouverai bien des opportunités.
Sans effet, messieurs, Victor Hugo, entré vivant dans la postérité, entre aujourd'hui glorieux dans la mort. Telle fut la une du Figaro du 23 mai 1885. Alors, en cette date funèbre, c'est toute la France qui pleure, le politique, l'écrivain, mais surtout ce père de la République qui était devenu Victor Hugo.
Je crois qu'on n'a pas la possibilité de véritablement imaginer ce que furent les funérailles de Victor Hugo.
Le Victor Hugo qu'on a à l'écran, c'était le Victor Hugo de l'époque de la monarchie.
Il était devenu
le vieux monsieur avec la grande barbe blanche.
Oui, voilà. On l'a vu tout à l'heure.
Et pourquoi c'est lui-là. C'est-à-dire parce que Victor Hugo a réussi, je dirais, à faire lire même les Français. Quand on ne savait pas lire et qu'on n'avait même pas les moyens de s'acheter un ouvrage, lorsque les misérables se répandent, on crée des cagnottes d'ouvriers par quartier. On est là, on prend dans sa tirelire, on achète un livre à plusieurs et celui, peut-être l'instituteur qui est un peu lettré, vient et enchante les uns et les autres. Et on sent quoi dans les misérables? Eh bien, on sent son âme. On sent que l'on est représenté, c'est l'accès à la dignité. Et cet homme, on en parle quand il tonne à l'Assemblée. Il est donc le symbole de la respectabilité des plus humbles. Quand on apprend sa mort, c'est terrible, ça pleure de partout. Les gens se précipitent à son domicile. Une queue.
Son domicile, avenue Victor Hugo.
Avenue Victor Hugo, c'est le seul homme à avoir eu son avenue de son vivant. Et ils sont là, ils pleurent. Et le gouvernement prend tout de suite la décision d'organiser des funérailles nationales. De l'avenue Victor Hugo à l'Arc de Triomphe, il y a 100 mètres. Et la nuit, on fait en sorte que ce soit la nuit que le corps du défunt passe de ce domicile à l'Arc de Triomphe où il restera exposé pendant...
À l'époque, il n'y avait pas la flamme du soldat inconnu.
Ah, bien évidemment, elle vient beaucoup plus tard.
1920.
Et sous l'Arc de Triomphe, on a le cercueil qui est exposé. Le gouvernement a peur de manifestations républicaines. Les journaux catholiques disent « c'est Satan qui triomphe ». J'ai pris comme ça des notes. Vous avez condamné des funérailles démagogiques, prétexte à une infernale manifestation qui ne peut que glorifier le mal. C'est-à-dire que pour la presse catholique, il est l'individu le plus épouvantable qui soit, parce que il est celui qui croit en Dieu, mais qui est anticlérical. Toutes les décisions qu'il prend, il représente ça. Et puis en plus, on connaît sa vie d'écrieur. Et d'ailleurs, toutes ces dames seront présentes. Mais la situation est tellement critique sur le plan de l'ordre public que le gouvernement fait en sorte que l'enterrement ait lieu un jour de travail. Il ne sera pas férié. Donc, si vous n'allez pas à votre emploi, vous ne serez pas payé. Et le cortège passera par les quartiers les plus riches. En revanche, c'est un corbillard,
ah oui, le corbillard du pauvre.
Le corbillard des pauvres, il a écrit à son beau-frère « Je veux le corbillard du peuple » et il a offert 50 000 francs pour les plus démunis. Voilà.
2 millions de personnes qui suivent le corbillard des pauvres.
C'est incroyable, des scènes mais de pleurs authentiques. Et c'est les dames qui, dit-on, ces femmes légères, s'offrent aux uns et aux autres pour rendre hommage à celui
on
qui les a tant côtoyés.
On aurait pu en parler pendant des heures.
Ah oui,
cette
ah
émission,
oui.
elle est un peu longue, mais on va terminer juste un moment, cher Franck. Merci beaucoup, Marc, sur Victor Hugo, sur Boulanger. Juste un mot avant de refermer.
Oui, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en dise d'ailleurs un mot la prochaine fois, si vous voulez, parce que là, ça mérite quand même qu'on s'attarde un peu sur cette tentative. Peut-être pas la dernière, d'ailleurs, parce qu'il y aura des choses encore pires, enfin, bien plus fortes dans l'histoire de France plus tard, mais c'est une tentative de reprise du pouvoir ultra-conservateur par un militaire, coup d'État quasiment fait, et puis au moment où tout le monde pense que le général Boulanger va partir fondre sur l'Élysée pour mettre fin à cette république que certains considèrent comme infâme, eh bien non, finalement il se dégonfle et il ira finalement se tuer sur la tombe de sa maîtresse, Madame Bonnemain. Cette crise du général Boulanger, 89, c'est le grand basculement. On est déjà dans le centenaire de la Révolution française, dans l'exposition universelle et dans la construction de la Tour Eiffel. On parlera de tout ça la prochaine fois.
Merci messieurs pour cette formidable émission. Fiche de révision après la transition assurée par Adolphe Thiers, la majorité monarchiste choisie en 1873, Patrice de MacMahon pour présider la République. Deuxième point, l'affirmation de la Nouvelle République s'appuie sur un certain nombre de symboles populaires. On en a parlé, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la fête du 14 juillet. Et puis parmi les grandes réformes de la Troisième République, à ses débuts, l'école laïque est gratuite et obligatoire et l'œuvre de Jules Ferry. Messieurs, deux livres chacun, un livre chacun. Pardon,
alors,
Victor Hugo.
Alors c'est Victor Hugo vient de mourir, de Judith Pérignon. C'est un petit roman, mais qui trace vraiment cette journée terrifiante où la France est en pleurs comme peut-être elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera plus.
Formidable petit livre.
Ah oui, formidable. Oui.
Ah oui.
Et dans un genre opposé quasiment, de la très grande histoire mais passionnante sous la direction de Pierre Nora, toute la série des lieux de mémoire et notamment le tome consacré bien sûr au symbole de la République.
Merci Franck Ferrand, merci Marc Menant pour cette 50e émission La Troisième République s'installe et la semaine prochaine... L'affaire Dreyfus.
Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.